Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que vous propose Radio Présence chaque semaine. C'est le premier numéro du printemps, période traditionnellement prolifique en termes d'événements musicaux, et ils sont en effet nombreux dans les jours à venir, notamment à l'Opéra National du Capitole. Il va donc être question de chant et d'art lyrique dans cette émission, ce qui nous vaut le plaisir de retrouver notre spécialiste, notre expert dans ce domaine, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert est accompagné de son alter ego, notre ami commun Serge Chauzy, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Le trio est reconstitué. Il y avait une petite actualité musicale la semaine dernière. Nous allons tout de suite y revenir avec Serge. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux. Merci d'être une nouvelle fois à mes côtés pour animer ce numéro de Mélomanie et ce retour arrière que nous commençons avec le concert de la saison Toulouse Guitare, donné par la grande guitariste espagnole Margarita Escarpa à la salle du Sénéchal le 15 mars. Mais avant d'en parler, il faut que nous revenions d'abord sur la première partie de cette soirée, où comme d'habitude, selon la coutume instaurée par Toulouse Guitare, de jeunes guitaristes issus du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse et de l'ISDAT ont été invité. C'était un duo cette fois-ci, je crois que c'est même une première, formé par Louis Michaud et Robin Tahar, que l'on avait déjà entendu l'un et l'autre mais séparément à l'occasion d'autres concerts. Et ma foi, Serge, ils nous ont offert un très agréable hors-d'œuvre, si je puis me permettre d'employer cette expression.
Oui, c'était mieux qu'un hors-d'œuvre d'ailleurs. C'était vraiment un programme original et vraiment la démonstration de ce qu'est la complicité, la cohésion quand on joue avec deux guitares. Moi, j'ai eu l'impression dès le début que c'était un seul guitariste qui jouait avec deux guitares. Vraiment, une précision, des nuances, une belle prestation avec trois œuvres très différentes les unes des autres, avec une œuvre d'abord du Brésilien Celso Machado, Images du Nord-Est, c'est-à-dire les images du Nord-Est, avec beaucoup d'intelligence et de finesse, et surtout cette précision impressionnante entre les deux musiciens. Ensuite, nous avons eu droit aux trois volets d'une pièce de Joaquín Rodrigo, bien connue évidemment, qui s'appelle Tonadilla, dans laquelle à la fois le sens des nuances et la virtuosité s'exerçaient au maximum. Hein. Une œuvre difficile sur le plan technique, mais qu'ils ont franchi de manière très virtuose. Et ensuite, une œuvre, alors apparemment beaucoup plus récente, puisque c'est une œuvre de Toru Takemitsu, le compositeur japonais. Je rappelle qu'il est mort en 1996, hein, donc il n'y a pas très longtemps, disons. Et c'était une pièce intéressante, intitulée « A Boy Named Hiroshima ». On voit que ça évoque des souvenirs un peu pénibles. Et alors là, ils l'ont joué, je crois, comme il le fallait, à la manière d'une valse nostalgique un peu. Et donc, c'était très touchant. Et tous les trois ont eu un excellent, un grand succès hein, de la part du public. Ils auraient pu donner un bis, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Et donc, ils ont attendu l'arrivée de Margarita Escarpa, qui, elle, ouvre un panorama musical vraiment sans limite. Hein. Faut dire que c'est une grande musicienne, très grande musicienne espagnole, hein, qui a présenté les œuvres, en anglais d'ailleurs.
Oui.
Mais c'était très beau, avec une série d'œuvres, vraiment une grande série, très nombreuses.
Très nombreuses pièces, et
ah, oui, oui, oui.
Pas facile.
Hein. Ah, oui, avec tout d'abord une œuvre de Mendoza, Juan Andrés de Mendoza, qui s'appelle, alors excusez mon accent espagnol, Onze Diferencias de Folia. Alors, c'est évidemment, comme le titre l'indique, c'est des variations, 11 variations, sur le thème de la folie. Alors, c'est un thème qui a parcouru les siècles, hein, le thème de la folie. Alors là, on a d'abord été ébloui, on peut le dire, par la beauté sonore de sa guitare. Hein. Enfin, c'est une finesse avec des legato. C'est très, très bien. Un raffinement hein, à la fois du jeu et puis un sens des nuances très développé, très bien adapté. Dans la séquence suivante, alors là, c'était plutôt la danse et la légèreté puisqu'il s'agissait du Fandango Variado de Dionisio Aguado. un fandango très varié, très, comment dire, lumineux, joyeux. Et puis ensuite, une sonatine de Federico Moreno Toroba. Alors lui aussi, c'était vraiment un grand guitariste bien connu dans le milieu de la guitare. Hein. Et avec cette sonatine, dans laquelle j'ai surtout admiré vraiment la douceur ineffable de l'andante. C'était une beauté incroyable, d'une poésie, une sorte de confidence murmurée par l'interprète. Vraiment très bien. Les deux pièces suivantes, alors là, elles constituaient un hommage à la grande guitariste Ida Presti, pour laquelle elle voulait absolument
On célèbre le centenaire d'Ida Presti en 2024. Elle a eu 100 ans donc, cette année.
Oui, donc elle a tenu à lui rendre hommage avec deux pièces. Alors la première pièce, c'était vraiment très, très étonnant. Une pièce de Francis Poulenc, Sarabande pour guitare, qui était dédiée évidemment à Ida Presti. Et une pièce très touchante, très douce. On ne retrouve pas du tout le Poulenc habituel, hein, plein d'esprit. Là, c'était vraiment presque religieux, hein. Donc une très belle pièce de Poulenc. Et ensuite une pièce d'Ida Presti elle-même, qui s'appelle « Danse rythmique ». Et d'ailleurs c'était le titre qu'elle avait choisi pour son récital. Alors c'était une pièce qu'Ida Presti avait composée pour son compagnon Alexandre Lagoya.
Oui, duo de légende.
Ah ben oui, évidemment. Alors avec une vivacité incroyable, une très belle prestation là aussi. Et puis séquence suivante, vous voyez qu'il y avait vraiment une série de séquences incroyables. Quatre valses, avec de nouveau une signée de Francis Poulenc, alors cette fois dans l'esprit de Poulenc habituel. Une autre, alors d'un compositeur que j'avoue je ne connaissais pas, actuel, hein, Fred Alan Ponthieu, qui est né en 1967, et une pièce qui s'appelle Valse à Royan, une pièce pleine de nostalgie, très belle, très bien construite. Et enfin, d'Antonio Lauro, lui qui est mort en 1986, deux valses qu'il a intitulées Dos Valses Venezolanas. Et là aussi avec la deuxième qui s'appelle El Marabino, très animée, très vivante, très exubérante, donc très beau moment. Et enfin, la dernière pièce était encore différente de tout ce qu'elle avait joué jusque-là. C'était une pièce de Fernando Lobo, qui est né en 1974 et qui s'appelle Appuntamento sobre as folies. On retrouve le thème initial de la folie avec des effets sur la guitare incroyable, des effets de percussion, de cordes étouffées en quelque sorte. Enfin, vraiment des effets un peu fous et qu'elle a vraiment mené avec beaucoup de virtuosité, beaucoup de finesse et d'intelligence. Et donc, elle a eu un très beau succès, vraiment. Un succès tout à fait mérité qui a appelé un bis à la fois joyeux et lumineux. Un bis de Francisco Tárrega, lui aussi très connu comme compositeur espagnol. Un bis intitulé Manier, qui est une gavotte en quelque sorte, et donc qui a conclu ce récital de manière tout à fait joyeuse.
Une petite chose, Thibaut Garcia était absent le 15 mars, le directeur artistique Toulouse Guitare, puisqu'il était appelé sur d'autres scènes lui-même en tant que guitariste. Mais son père, Jules, qui préside Toulouse Guitare, a présenté le concert, bien sûr. Et il a rappelé quelque chose de touchant, c'est que Margarita Scarpa avait gagné le très prestigieux prix de la Guitar Foundation of America l'année même de la naissance de Thibaut, en 1994.
Qui lui l'a gagné
en 2015, je crois, un peu plus de 20 ans après.
C'est amusant comme coïncidence.
Voilà, la boucle était bouclée en quelque sorte. Enfin, c'était un très très joli concert. La salle était pleine. Alors, c'est un public un peu particulier, celui de Toulouse Guitare. Je crois qu'il n'y a quasiment que des guitaristes ou des parents de guitaristes dans la
beaucoup
salle.
Beaucoup de jeunes, très enthousiastes. Dans cette salle qui est très bien, cette salle du Sénéchal, et dans laquelle il n'y a pas besoin de sonoriser Donc c'était très
côté très,
très
intime aussi, en plus elle est très bien située. Effectivement, c'est une salle qui est très très bien pour ce genre de concert. Je propose qu'on réécoute maintenant Margarita Scarpa dans une interprétation d'une pièce qu'elle a jouée le 15 mars, salle du Sénéchal, Carora d'Antonio Lauro. Thank you. Carora, pièce d'Antonio Lauro, jouée par la grande Margarita Escarpa. Notez que le prochain et dernier concert de la saison Toulouse Guitare est programmé le dimanche 5 mai à 17h à la chapelle des Carmélites, où va se produire le luthiste Thomas Dunford, un des grands musiciens de la jeune scène baroque actuelle. La semaine dernière, si vous avez écouté Mélomanie, vous savez que nous y avions pour invité Jean-Marc Andrieux, avant le concert qu'il allait donner avec les Passions de Montauban le samedi 23 mars à l'église Saint-Exupère de Toulouse. Il s'agissait d'un programme de concerto baroque auquel nous avons tous les deux assistés, Serge. Ça a été un très bon moment, de musique bien sûr, mais aussi parce que chaque œuvre jouée a été présentée par l'un des six musiciens qui se produisaient ce jour-là, et à chaque fois avec beaucoup d'érudition et d'humour, chacun dans leur style.
Beaucoup d'humour, en effet, mais il faut préciser qu'ils étaient six et il y avait six œuvres.
Oui.
Donc ça tombait bien, hein, donc la coïncidence était parfaite. Alors, il faut quand même rappeler que ce concert était organisé dans le cadre de la journée de musique ancienne du réseau européen des musiques anciennes et en partenariat avec le Goethe Institut de Toulouse, et c'était à l'occasion de la quinzaine franco-allemande. Et d'ailleurs, la directrice de l'Institut, Stéphanie Neubert, était présente, ainsi d'ailleurs que le président de l'Orchestre des Passions, Daniel Halm, et donc ils se sont tous les deux réjouis de cette collaboration fructueuse. Et donc, là étaient réunis six musiciens, il faut les nommer: Flavio Losco au violon, Xavier Miquel au hautbois, Étienne Mangot au violoncelle, avec des noms connus, hein, qui joue aussi dans ensembles.
Oui.
Et puis Nicolas André au basson, Yvan Garcia au clavecin, et bien sûr Jean-Marc Andrieux, à la fois à la direction et à la flûte à bec. Et d'ailleurs, il ne s'est pas épargné, il n'a jamais arrêté donc de jouer avec toute la virtuosité qu'on lui connaît. Oui, ce qui était amusant, comme vous le disiez, c'était une sorte de rivalité simulée entre les musiciens qui, chaque fois qu'ils présentaient une œuvre, d'abord c'était l'œuvre dans laquelle leur propre instrument était le plus sollicité, et puis ils proclamaient chacun que c'était évidemment le plus bel instrument du monde, aussi bien la flûte à bec que Jean-Marc Andrieux, que le violoncelle d'Étienne Mangot, etc. Donc c'était une complicité à la fois musicale et amicale qui a présidé tout au long du concert. On a eu donc là aussi une série donc de six œuvres, hein, avec deux œuvres d'un compositeur qu'on n'entend pas beaucoup, qui est Joseph Baudin de Boismortier, du 18e, hein, début du 18e.
On le réentend quand même depuis quelques années, les oui. baroqueux lui donnent de temps à autre quand même un petit peu la vedette dans leur programme.
Oui, oui, oui,
et
c'est vrai.
Par exemple aussi les talents lyriques de Christophe Rousset. Voilà, c'est un compositeur qu'on commence à redécouvrir.
Oui, quand même, oui, 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 qui le mérite. Hein.
En plus.
C'est vraiment de la belle musique. Et donc, Jean-Marc Andrieux lui-même a présenté la première œuvre, donc qui était un concerto en mi mineur pour flûte à bec, violon, hautbois, basson et basse continue, donc clavecin plus violoncelle. C'était vraiment une sorte de danse avec la douceur du deuxième mouvement et puis une grande discussion virtuose entre les six instruments pour terminer cette première œuvre. Vraiment une œuvre intéressante. Et puis ensuite, c'est au bassoniste Nicolas André d'introduire la vitalité alors du plus célèbre des compositeurs de la soirée, qui était Antonio Vivaldi, évidemment, avec son concerto en sol mineur, également pour flûte à bec, hautbois, basson, violon et basse continue. Et alors, comme on pouvait s'y attendre, c'est le basson qui déchaîne une virtuosité incroyable. Chapeau à Nicolas André, qui a vraiment fait de belles choses dans ce concerto, mais avec le violon quand même, hein. On avait l'impression qu'ils étaient en compétition. Violon contre basson. Et puis, il y avait un touchant duo avec la flûte qui était un beau moment. Et puis, on est revenu à Boismortier, là, cette fois, pour un concerto en ré majeur pour violoncelle, avec évidemment Étienne Mangot, le violoncelliste soliste des Passions, qui est un grand musicien, un excellent musicien. Et donc, c'était un concerto que Jean-Marc Andrieux avait tout de même transcrit pour l'ensemble des instruments, puisqu'à l'origine, ça n'est que pour cordes.
Oui.
Donc là, pour faire jouer tous ces musiciens, il l'avait transcrit.
Et il a précisé une chose importante, c'est que c'est le premier concerto pour violoncelle composé en France.
En France, exactement. Évidemment, avant ça, la viole de gambe était
ah bah en France, c'est la viole de gambe qui dominait,
hein,
et le violoncelle est arrivé d'Italie.
Est arrivé plus tard.
Ce
oui, donc voilà, premier concerto pour violoncelle français a été très bien. Alors, évidemment, Étienne Mangot est un expert en la matière, et donc il a à la fois bien commencé commenté le déroulement. Il a vraiment très bien restitué l'éloquence de ce concerto, puisque il y a vraiment l'éloquence typique de la musique française que l'on retrouve chez Baudin de Boismortier. Ensuite, eh bien, c'était de la musique baroque allemande, qui s'est d'abord ouverte sur le quintet en ré majeur, donc du plus jeune des fils de Johann Sebastian Bach, le 18e de ses fils, sur les 21 hein, qu'il a eu, Johann Christian. Donc, alors, c'était le classicisme triomphant, c'est une œuvre plus tardive que les autres œuvres, hein, et qui met surtout en avant le jeu du clavecin, qui est tenu par Ivan Garcia, et donc qui, outre qu'il a présenté l'œuvre, il l'a joué avec beaucoup de virtuosité, de finesse. Donc avec un très poétique mouvement central d'ailleurs, avec des pizzicati des cordes et des ponctuations du clavecin. Ensuite, c'était le hautbois qui devient la vedette avec le concerto en la mineur de Georg Philipp Telemann. Là, cette fois, c'était commenté par Xavier Miquel, le hautboïste, hein, et donc avec quatre mouvements, avec un déferlement virtuose, un combat, on a l'impression, impressionnant entre le hautbois et le violon. Et donc, c'est sur une œuvre d'Antonio Vivaldi que se terminait ce programme, avec le concerto en sol mineur, et où le violon a la vedette en quelque sorte, hein, puisque, comme l'avait dit Nicolas André, après le violon, le basson est l'instrument pour lequel Vivaldi a composé le plus grand nombre de concertos.
Et, oui.
Et on ne le sait peut-être
pas. Une quarantaine, je crois.
Ah oui, c'était incroyable. Mais bah, le violon reste quand même l'instrument favori
c'est son instrument.
De Vivaldi, donc le violon triomphant en quelque sorte. Et alors là, c'est Flavio Losco qui l'a présenté et qui l'a joué avec en particulier le mouvement final qui est une chaconne. Alors là, c'était du délire absolu, un jeu vraiment virtuosissime, on peut dire, du violon et de tout l'ensemble. C'était un vertige qui a déclenché une ovation vraiment enthousiaste du public, au point que comme bis, ils ont dû reprendre toute la chaconne, parce que c'était vraiment impressionnant.
Vous aurez remarqué, ceux qui nous auront bien écoutés, qu'il y avait deux concertos en sol mineur.
Oui, les deux
avec exactement
de Vivaldi,
les mêmes instruments. Oui. Alors juste pour faire la différence, il y en a un, c'est le RV 105 et l'autre, c'est le RV 107.
Bah, il les a peut-être composés le même jour d'ailleurs.
Allez savoir. Apparemment non, mais bon. Parce que parfois, il commençait une œuvre, il la reprenait plus tard.
Oui,
il menait tout un tas de chantiers de front. Bon,
enfin, voilà, il était très productif.
Ah ça, oui. Donc RV 105 et RV 107. Eh bien, même si cette pièce n'était pas au programme du concert à l'église Saint-Exupère, pour vous donner une bonne idée de ce que nous y avons entendu samedi dernier, je vais vous passer un extrait du concerto, non pas en sol mineur, mais en fa majeur, pour flûte à bec et cordes, aussi appelé Tempesta di Mare de Vivaldi, et c'est Jean-Marc Andrieux qui était à la flûte dans cette version des Passions de Montauban. Thank you. concerto en fa majeur pour flûte à bec et cordes, Tempesta di Mare de Vivaldi, interprété par les Passions de Montauban et Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec. Nous terminons donc cette première partie d'émission avec eux, une courte virgule musicale, et nous allons poursuivre avec notre rubrique Agenda, toujours en compagnie de Serge Ozy et de Robert Pénavert. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy et Robert Pénavert. Robert qui ronge son frein depuis le début de l'émission. Parce que, évidemment, si Robert y participe, c'est bien sûr que nous allons y parler d'opéra et du prochain à l'affiche de l'Opéra National du Capitole. Du 29 mars au 7 avril, le public toulousain a rendez-vous avec la Cenerentola, l'opéra de Gioachino Rossini. Il y a 8 représentations et Robert va se faire un plaisir de vous présenter cette nouvelle production. Alors, à ce propos, il y a combien de temps qu'on n'avait pas vu Cendrillon au Capitole, Robert ?
Bah, écoutez, d'après mes recherches, depuis le mois de janvier 1985, ça n'a pas été donné au Capitole, et je pense même que c'était l'entrée au répertoire.
Ah oui, donc il n'y a eu qu'une seule production au Capitole de Cenerentola.
Oui, j'ai remonté sur à peu près 100 ans.
Pas trace de
Cenerentola. Alors autant le Barbier est complètement envahissant, complètement. Et pourtant Dieu sait que quand on met les deux partitions à côté, mon choix est vite fait.
Donc une seule fois et en plus ça date.
40 ans bientôt.
Et oui.
Bon, pour la petite histoire, c'était Gianfranco Rivoli qui le dirigeait dans une mise en scène de Paolo Trevisi. Et il y avait l'une des plus grandes Angelina de l'histoire, Lucia Valentini Terrani, la pauvre décédée bien jeune, qui avait exactement la voix d'Angelina. Moi, j'en ai un souvenir absolument émerveillé de Lucia Valentini Terrani. À ses côtés, il y avait un Français quand même qui faisait Ramiro, le ténor Gérard Garino. Ensuite, il y avait deux grands chanteurs de la grande époque d'Aix-en-Provence. C'était dans le rôle de Dandini, et c'était Renato Capet qui...
Oh oui, en effet.
Alors, qui a été un grand mozartien à Aix-en-Provence.
Figaro incroyable.
Et Figaro incroyable, voilà. Et Magnifico, c'était Paolo Montarsolo. Oh là ce là. Qui était quand même...
Évidemment, il y avait une formidable distribution.
Ils étaient un peu, reconnaissons-le,
à l'époque.
En fin de carrière. Mais tout de même, ils avaient cette vis comica et puis ils avaient cette science du chant syllabique absolument extraordinaire que l'on retrouve quand même un peu malgré tout auprès de certains interprète aujourd'hui. Voilà, et Lalidoros, alors lui n'était pas un Italien, c'était Roderick Kennedy qui était très bien également. Voilà, un grand, grand souvenir, le seul concernant le Théâtre du Capitole. Voilà.
D'où l'intérêt de reprendre Cenerentola près de 40 ans après au Capitole, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients d'enfin le voir à Toulouse, même si j'imagine que dans la salle, il y a des gens qui l'auront vu ailleurs.
Oui, non, mais bien sûr, mais on peut c'est considérer qu'il y a occasion, toute une génération
pas rater, hein.
De Toulousains qui,
oui,
qui ne l'ont pas vu
en tout cas. Oui.
Alors donc, pour en revenir effectivement à cette reprise, c'est une reprise malgré tout, elle se fait dans le cadre d'une nouvelle production avec l'opéra de Riga en Lettonie, dont nouvelle production, qui dit nouvelle production, des nouvelles mises en scène, décors, costumes, etc., par un duo de Québécois, par contre, que nous connaissons bien, Barbe et Doucet, puisque nous les avons connus, pour une nouvelle production de
la Bohème
au Théâtre du Capitole. Oui. Voilà. Alors ce sont très clairement, et de ce que j'ai vu de cette production qui se passe un peu dans le milieu de cabarets plus ou moins has-been ou en faillite, enfin vous allez voir Cendrillon, elle est retoucheuse dans un cabaret où il y a des revues un peu légères. Bon voilà, il y a forcément, dans cet opéra, il y a du comique, mais... Le génie de Rossini. Rossini, alors je tiens à dire, Rossini, il a 25 ans quand il compose cet opéra. Et donc, alors ça c'est le hasard, j'imagine, je n'ai pas posé la question à Christophe Christie, mais vous savez que nous sortons d'une reprise d'Idoménée de Mozart. Mozart avait 25 ans également lorsqu'il a écrit Idoménée. Et tous les deux étaient en train de suivre des chemins qui allaient se croiser. Oui. Non pas se rejoindre, mais se croiser. Il y en avait un qui abandonnait l'opéra Seria, Mozart, l'autre qui a abandonné l'opéra Buffa, Rossini, oui. Puisqu'après les autres opéras qu'il va faire, mis à part un peu en fin de carrière, le Contori, il a composé que des opéras seria. Mais c'est comme ça. C'était l'envie, certainement. Rossini avait très envie. C'était quelqu'un de très sensible et qui se voulait quelqu'un de sérieux. Il en avait un peu assez d'être le bouffon, en définitive, des compositeurs de cette époque-là. Bien, il y en a pris parce que les opéras seria qui ont suivi sont d'immenses chefs-d'œuvre également. De même que Mozart, après, il y a eu l'Enlèvement au Serail, il y a eu la trilogie d'Aponte, il y a eu la Flûte enchantée. Bon, évidemment, il y a eu quand même la Clémence de Titus, juste à la fin. Mais voilà, deux génies
qui
à quelques années d'écart.
Une somme vraiment imposante de chefs-d'œuvre qui sont régulièrement repris sur toutes les scènes lyriques du monde.
Voilà. Donc, Barbe et Doucet vont nous raconter une... Vous savez que c'est issu, évidemment, du conte de Perrault, mais ce conte de Perrault a été un peu modifié, puisque ici n'est pas question de citrouille, de fée, de marraine, etc. Non, pas du tout. Donc, la marraine, en fait, est un philosophe. Bon, voilà. C'est un peu plutôt un drame bourgeois. Mais quand je dis un drame bourgeois, c'est un vrai drame quand même. Parce que, et c'est ça, je trouve, le génie de cette œuvre. Autant dans Le Barbier de Séville, bon, allez, soyons francs, c'est une bouffonnerie, Le Barbier de Séville. Alors que, regardez les premières phrases d'Angelina. Una volta c'era un re, elle chante une histoire, une vieille légende, mais en fait elle dit una volta, une fois il était un roi qui allait chercher sa bien-aimée, etc. Et donc un arioso extrêmement sensible parce qu'elle est au pied de sa cheminée en train de ramasser les cendres, d'où Cendrillon bien sûr. Mais c'est très triste et puis il y a dans cet opéra des moments qui sont quand même mine de rien, intensément tragique, lorsque Don Magnifico prétend qu'elle est morte. Enfin, c'est quand même monumental, ça. Mais c'est atroce, ça. C'est quand même des moments qui, dans ces opéras bouffes ou ces dramas giocosi, sont obligés de nous faire revenir un peu sur terre. Et je trouve que Rossini, j'avais commencé à vous le dire en préambule, mais vous l'avez compris, Rossini, là, dans cette œuvre, qui est une œuvre de transition, très clairement, il arrive à créer un climat seria dans un opéra bouffe. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Voilà, dans cette mise en scène, je ne vous en dévoile pas davantage, croyez-moi, malgré tout, on ne va pas beaucoup pleurer, je vous le garantis, c'est très animé, c'est très précis, comme ce qu'il avait fait
dans
Bohème. C'est très très précis, c'est très détaillé, c'est pas du tout du vilain Wagner. Ça, je vous garantis que sur scène, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Vraiment. Et de très belles choses, de très beaux costumes. C'est très lumineux, c'est très enlevé. Vraiment,
Le plaisir de l'œil.
Voilà, c'est quasiment, ils en ont fait une comédie musicale.
Oui, c'est ce que je comprends dans tout ce que vous nous dites là.
Alors donc, maintenant, on va venir aux interprètes, hein. Aux interprètes, alors nous avons la chance immense d'avoir, vraiment, je vous parle à vous, mais je parle aux auditeurs en particulier, précipitez-vous parce qu'il n'est pas très sûr que ce chef d'orchestre nous revienne d'ici longtemps.
Oui, vous l'aviez déjà dit à propos d'Idi Menet, qu'il avait déjà dirigé.
Et entre guillemets, pour nous, malheureusement,
oui.
Ça se confirme. Donc, puisque déjà, c'est lui qui va faire la réouverture du Palais Garnier pour la saison 24-25, où il va diriger une nouvelle production des Brigands.
Et c'est qui, ce chef d'orchestre ?
Michele Spotti.
Non, mais
c'est celui...
Ne vous inquiétez pas.
C'est celui qui déjà nous a dirigé une Traviata d'une autre planète il y a un an et demi, qui nous a fait cette Idoménée...
Il y a quelques semaines.
Quelques semaines à peine, hein. Donc, il était quasiment en résidence à Toulouse pendant 3 mois. Et ça, vraiment, la planète entière nous envie ce moment que nous avons vécu.
Et pour ceux qui regardaient la cérémonie de remise des victoires de la musique classique, lui aussi qui dirigeait l'Orchestre national de Montpellier.
Quelle activité !
Activité. Mais il était dans la région, donc c'était au moment d'Idi Domenè. Hein.
Voilà. Donc,
mais effectivement, il faut profiter pour voir diriger l'Orchestre du Capitole parce qu'on risque de ne pas le revoir de sitôt, effectivement.
Parce que le revenir, entre guillemets, le mobiliser un mois et demi pour une nouvelle production. Oui. Là, j'ai peur que, bon, j'imagine que Christophe Christy va essayer, mais et maintenant, il est appelé à New York, il est appelé à Munich, à Paris, à Vienne.
Il faudra s'y prendre de plus en plus tôt pour avoir une petite place dans son agenda.
Alors, peut-être aurons-nous la chance de l'avoir à la Lohgren, peut-être, puisque à la Lohgren, c'est deux jours, en principe.
Oui, ben oui.
Ils ne viennent pas davantage. Mais en attendant, il s'appelle Michele Spotti, et croyez-moi, ce jeune chef d'orchestre italien, précipitez-vous pour l'écouter, parce que moi-même, je suis vraiment impatient. Et il a une double distribution.
Puisqu'il y a 8 représentations.
Puisqu'il y a 8 représentations, voilà. Évidemment. Donc, il y a une double distribution. Alors, nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur. Donc, Angelina, la Cenerentola. Et nous retrouvons Adèle Charvet, qui nous avait charmés avec sa Rosine du Barbier, qui était une Rosine un peu spéciale, donc, parce qu'en en fait, elle était sur scène, mais elle n'était pas seule sur scène, puisqu'en fait, elle était enceinte de 7 mois et qu'elle avait tenu malgré tout à faire ses représentations.
Son contrat, oui.
Voilà. Et comme elle me disait, mais il faut dire que c'était un souvenir magnifique parce que j'avais une énergie folle. Je ne sais pas qu'est-ce qui me donnait cette énergie. Et en même temps, tout le plateau était à ma disposition.
Au petit soin.
Surtout le chef d'orchestre, le régisseur, le metteur en scène et les chanteurs. Et ça a été un moment inoubliable. En alternance, nous allons trouver Florian Hassler, qui est une autre mezzo, qui, est, je pense également, a été finaliste du dernier concours long dédié à la voix, puisque vous savez que depuis quelques années, il y a un concours qui est également dédié à la voix. Elle a fini parmi les 6 premiers, avec d'ailleurs Juliette May, et elles étaient toutes les deux. Moi, personnellement, je vais la découvrir, je ne la connais pas. Elle s'appelle donc Florian Hassler, c'est un vrai mezzo-soprano, vu les rôles qu'elle aborde aujourd'hui. Et bon, bah, on va faire connaissance, et bien entendu, comme d'habitude, nous sommes impatients. Face à ces deux Angelina, il y a deux amoureux, évidemment, dont Ramiro, le prince. Il y a les villes, comme disent nos amis fous de rugby, un Sudaf, donc, puisqu'il est sud-africain, Lévis-Segapane, que nous avons eu déjà à Toulouse en duo avec Laurence Brownlee.
Grande voix.
Et voilà, je me souviens de ce récital où c'était un combat de contre-dièse, de contre-ré. C'est à celui qui grimperait le plus haut, qui tiendrait le plus haut les notes le plus longtemps, etc. C'était vraiment à mourir de rire. Et donc, il revient pour Don Ramiro. C'est un rôle qu'il a déjà chanté, évidemment, à plusieurs reprises. Mais je tiens à souligner le second ténor. Le second dans la liste, et non pas dans la qualité, c'est un jeune Italien qui s'appelle Michele Angelini, que j'ai découvert personnellement il y a 3 ans au festival Peralada, où il chantait à côté du ténor baryton, du baryton tonnerre, je ne sais plus ce qu'il faut dire, Placido Domingo, dans Thaïs. Alors évidemment, Domingo chantait comme il pouvait à Tanael, mais à côté, il y avait un Nicias qui, dès sa première note, m'a fait sursauter. Et c'était lui, Michele Angelini. Je ne rêvais que de l'entendre. Et bon,
et bien voilà.
Et voilà, le voilà. Et vraiment, je vous assure, même si vous n'avez pas de place pour la première, précipitez-vous sur la deuxième distribution, parce que là, vous allez avoir un choc, mais un vrai choc, je vous le garantis. Michele Angelini. Ensuite, évidemment, il y a Dandini, qui est le valet du prince, vous savez, qui va se travestir. Et donc, ils sont deux à chanter,
deux
Français.
Deux baritons qu'on connaît bien.
Florian Sempé et Philippe Estef. Philippe
Estef. Le régional de l'étape.
Égal, le régional de l'étape, puisque donc, il est né à Agen, il vit dans le sud-ouest, Cocorico. Et ça nous fait plaisir d'entendre ce jeune bariton qui a une grosse activité aussi de management dans des compagnies musicales. Dans
les nuits musicales de Armagnac.
Les nuits musicales d'Armagnac, vraiment. Il se démène vraiment pour amener l'opéra au plus profond des territoires, dans les EHPAD, auprès des maternelles même. Enfin, voilà.
Moi, je trouve qu'il faut saluer tous nos auditeurs du Vers, qui connaissent Philippe Estef.
Voilà, mais il faut saluer cet homme et puis son engagement dans l'art lyrique. Sans oublier qu'il a été chez nous un magnifique Papageno lors des dernières reprises
de
la flûte enchantée. Deuxième distribution également. Donc, attention à cette deuxième distribution.
Il vaut vraiment le déplacement.
Voilà. Ensuite, bon, malheureusement, il y a eu une défection il y a quelques jours de Nicolas Laimo, qui était en alternance avec Vincenzo Taormina pour Don Magnifico, une défection pour raison de santé. Et donc, Vincenzo Taormina a dit, bon, moi, je peux vous faire toutes les représentations. Et donc, il sera là tous les soirs.
Toutes les représentations.
Vincenzo Taormina, je répète, que nous l'avions applaudi à tout rompre parce que c'était le deuxième barbier des dernières reprises du Barbier de Séville.
Non, mais il y a une distribution formidable. Hein.
Voilà, toujours, encore une fois, deuxième distribution, mais là, il est pour toutes les représentations. Ensuite, attention également à l'Alidoro. L'Alidoro, vous savez, c'est le philosophe, c'est, entre guillemets, c'est la fée. Et donc, c'est celui par qui le miracle va arriver. Et donc, il y en a deux, Alex Rosen et Adolfo Corrado. Adolfo Corrado est en deuxième représentation. Et les renseignements que j'en ai et de sources extrêmement sûres, c'est-à-dire des gens qui l'ont déjà entendu à plusieurs reprises, m'ont dit « tu vas avoir un choc de taille ».
Et voilà encore un choc.
Voilà, en deuxième distribution.
Mais décidément, on commence à se demander s'il ne faut pas aller plutôt à la deuxième distribution.
Mais je rappelle,
en tout cas, pour ceux qui veulent faire des découvertes.
Je rappelle qu'il y a quelques années, en deuxième distribution,
veux pas dire que les premières
sont pas bien. Alagna, on a découvert Juan Diego
Flores,
on a découvert... Et tout ça, c'est en deuxième
distribution. Les chanteurs qui débutent, souvent, c'est là qu'on les découvre.
Mais voilà. Attendez, je ne veux pas dire que la première distribution est à...
loin
s'en faut. Mais surtout...
Mais c'est là où il y a le plus de découvertes, semble-t il, la deuxième.
Exactement.
Ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs.
Exactement.
C'est donc, ça, pour les curieux, voilà.
Mais je veux rappeler quand même qu'en première distribution, Adèle Charvet chantera sa première
Angelina. Prise de rôle.
Voilà, une prise de rôle. Et à mon avis, elle a la voix maintenant qui est parfaite pour chanter ce rôle-là. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier les deux sœurs un peu pimprenelles, si vous me permettez. Céline Laborie qui fera Clorinda et Julie Pastoreau qui fera Tisbé, évidemment, les chœurs de l'Opéra du Capitole, Gabriel Bourgoin. Voilà. Bon, enfin, tout ça.
Écoutez, non, je ne sais plus. Les décors, les costumes, les deux distributions, le chef d'orchestre. Bah, il y a tout pour faire super production.
Pour faire des reprises mémorables.
Alors, pour l'instant, moi, tout ce que je peux vous proposer, mais c'est déjà pas mal, c'est un air de la Cenerentola chanté par le grand ténor sud-africain Levi Segapane, qui sera donc Don Ramiro au Capitole du 29 mars au 7 avril.
Freddo di muore dentro il cuore.
Levi Segapane est dans cet extrait de la Cenerentola, Cendrillon, l'opéra de Rossini, dont la nouvelle production est programmée au Capitole pour 8 représentations du 29 mars au 7 avril dans une mise en scène de Barbe et Doucet. Et au cours de cette même période est également programmé à midi du Capitole, Robert, le jeudi 4 avril à midi et demi, midi du Capitole qui va être donné par la jeune soprano Marie-Laure Garnier, une chanteuse qu'on commence à bien connaître à Toulouse maintenant.
Oui, tout à fait. C'est notre compatriote de Guyane qui nous revient régulièrement depuis 2018, puisque nous l'avons découverte. Elle chantait Gerilde dans la Valkyrie, c'est-à-dire l'une des sœurs de Brunhilde.
Je m'en souviens.
Ensuite, l'année d'après, elle chantait Ygraine dans Ariane et Barbe Bleue. En 2021, elle faisait la cinquième servante d'Electra. En 2022, alors c'est un rôle quand même un peu plus conséquent et vraiment... Voilà, où on a pu apprécier son talent scénique. Elle chantait Junon dans la platée de Rameau, et c'était dans la mise en scène de Shirley Dino, donc inutile vous dire qu'elle s'en est donnée à cœur joie, et elle a très bien chanté également, bien sûr. Et en 2023, alors là, un rôle d'une toute autre nature, elle était aux côtés de Cyril Dubois pour le viol de Lucrèce. Alors Cyril Dubois faisait le chœur masculin, elle faisait le chœur féminin, elle a été magnifique. Voilà, elle nous arrive accompagnée par une partenaire de prédilection, la pianiste Célia Oneto Ben Saïd. Et elle nous vient dans un programme de Negro Spiritual, mais pas que. Il y a également des mélodies signées Olivier Messiaen et Francis Poulenc. Alors, dans son répertoire qu'elle a intitulé Les chants de l'espoir. Voilà.
Oui. Pas commun, les mélodies de Messiaen, hein. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent sur scène. Et puis donc, ce programme de Negro Spiritual, avec sa partenaire, comme vous l'avez très bien dit, de prédilection, cette pianiste Célia Oneto Ben Saïd, qu'on a entendu, il me semble, à Piano Jacobin il y a quelques années. Et pour avoir l'aperçu de ce programme, nous allons écouter Marie-Laure Garnier, justement, dans un des Negro Spirituals qu'elle va chanter le 4 avril au Capitole. Celui-ci a pour titre Wade in the Water, et elle est accompagnée, bien sûr, au piano, par Célia Oneto Ben Saïd. Wade in the Water, Negro Spiritual, datant du tout début du XXe siècle, chanté par Marie-Laure Garnier, accompagné au piano par Célia Oneto Ben Saïd. Le duo donne donc un midi du Capitole, jeudi 4 avril à midi et demi. Mais avant cela, cette semaine, l'Orchestre National du Capitole est en concert à la Halle aux Grains, jeudi 28 mars à 20h. Un concert qui va être dirigé par une femme, la Française Ariane Matiak. Ça, c'est plus vraiment une rareté. En revanche, ce qui est très rare, Serge, c'est d'entendre en concert les sept paroles du Christ en croix de César Franck.
Ah oui, en effet, c'est vraiment une rareté. Il faut se précipiter là, parce que c'est une œuvre avec chœur, donc, et chanteur soliste. Le chœur, ce sera ça ne surprendra personne, l'Orfeon Donostiarra, dirigé toujours par José Antonio Sainz Alfaro. Et donc, il y aura cette deuxième œuvre, c'est la deuxième œuvre du programme. Et en première partie, eh bien, nous aurons du Gabriel Fauré, ce qui n'est pas étonnant.
Cette année, c'est presque à tous les concerts, j'exagère, mais bon, voilà,
Santerre
de Fauré oblige. Et en
année,
plus, il est originaire de notre région.
Et oui, bien sûr. Donc, il y aura de Gabriel Fauré la suite Péléas et Mélisande, et puis cinq mélodies. Ces cinq mélodies, ce sont Les Roses d'Ispahan, La Chanson du Pêcheur, En prière, Claire de Lune et La Tarentelle. Et alors, il y aura donc trois chanteurs qui se relaieront, la soprano Florie Valiquette, le ténor Julien Bert et le baryton Jean-Sébastien Bou, donc qui interviendront à la fois dans le Franck et dans le Fauré. Mais il faut tout de même préciser que Ariane Matiak a grandi dans un environnement très musical. Elle est la fille de deux chanteurs et elle a même chanté sous la direction de Nicolas Sarnoncourt,
oui.
Ce qui est tout de même quelque chose.
Elle est pianiste à la base, mais là, je trouve
effectivement. Oui, mais et donc, elle est chef assistante de l'Opéra Orchestre de Montpellier.
Oui, elle fait une
donc,
belle carrière.
Donc, bon, elle dirige beaucoup l'opéra, d'ailleurs. Et donc, nous la verrons, je crois, pour la première fois à Toulouse.
Oui,
hein.
Oui.
Précisons tout de même que le programme musical est établi en collaboration avec le Palazzetto Bruzzane, donc cette institution importante, centre de musique romantique française.
Française, voilà, qui défend la musique française et qui a souvent soutenu des productions à Toulouse, notamment.
Ah, oui.
Alors, pour l'anecdote, concernant ces sept paroles du Christ en croix de César Franck, elles ont été composées en 1859, mais Franck ne les a jamais vues jouer de son vivant. Et pourtant, il est mort en 1890. Elles n'ont été créées seulement qu'en 1977 et pas en France, en Allemagne en plus.
C'est incroyable, une œuvre incroyable. Oui.
Voilà, et ça va être une première à Toulouse. Hein,
ah oui, oui, absolument.
En revanche, l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Michel Plasson, avait enregistré une version de Péléas et Mélisande de Gabriel Fauré en 1982, ce qui nous permet d'écouter maintenant son troisième mouvement, la fameuse et très belle, très fauréenne, Sicilienne. La Sicilienne de Péléas et Mélisande dans la version enregistrée en 1982 par l'Orchestre National du Capitole et la flûtiste Patricia Nagle, dirigée par Michel Plasson, un disque qu'on peut trouver aujourd'hui sous le label Warner Classic. L'Orchestre du Capitole est donc en concert le jeudi 28 mars à 20h sous la direction d'Ariane Matiak. Péléas et Mélisande et cinq mélodies de Gabriel Fauré sont au programme de cette soirée, ainsi que les sept paroles du Christ en croix de César Franck. Ce concert est redonné le lendemain, le 29 mars, à l'Estive, la salle, la scène nationale même, deux fois en Ariège. Autre formation toulousaine en concert prochainement, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, les 2 et 3 avril à l'Escale de Tournefeuille, à chaque fois à 20h30. Et ce mois-ci, l'Orchestre de Chambre met à l'honneur de son programme mensuel Bach et Händel, Serge.
Et même un troisième compositeur, mais parlons tout d'abord de Jean-Sébastien Bach. Donc, nous entendrons le concerto pour violon en mi majeur et des extraits du petit livre d'Anna Magdalena dans un arrangement de Gilles Colliard avec une soliste, une violoniste soliste, Lina Turbonnet. donc. Et puis ensuite de Handel, il y aura de nouveau un concerto pour violon en si bémol cette fois, et également avec la même soliste, Lina Turbonnet. Et puis le concerto grosso de l'opus 6 numéro 11. Et troisième compositeur, un peu moins connu tout de même, Georg Muffat, dont l'orchestre jouera la sonate numéro 2, Harmonico Tribute, en sol mineur.
Compositeur de la fin du XVIIe siècle, oui. Georg Muffat, oui. À découvrir, parce que moi j'avoue, je ne connaissais pas
absolument,
du tout son nom.
Absolument, je ne connaissais que le nom. Il est mort en 1704.
Voilà, et donc Lina Turbonnet, comme son nom ne l'indique pas forcément, est une violoniste espagnole, jeune violoniste qui a déjà joué avec les plus grands, qui a été dirigée par les plus grands, donc à découvrir également. Nous allons finir cette émission avec un extrait du concerto pour violon en mi majeur de Jean-Sébastien Bach. Voici son premier mouvement. Allegro dans une version avec Lina Turbonnet en soliste. Le premier mouvement Allegro du concerto pour violon en mi majeur BWV 1042 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Lina Turbonnet, accompagnée par l'ensemble Musica Alchemica. C'est donc une des œuvres au programme des concerts Bach et Handel que donnent l'Orchestre de Chambre de Toulouse et la violoniste espagnole à l'escale de Tournefeuille les 2 et 3 avril. Puis à Saint-Pierre-des-Cuisines les 22 et 23. Ces quatre concerts commencent à 20h30. Les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr pour le concert de l'Orchestre National du Capitole. Jeudi 28 mars à 20h à la Halle au Grain sous la direction d'Ariane Matiak avec Péléas et Mélisande et 5 mélodies de Gabriel Fauré ainsi que les 7 paroles du Christ en croix de César Franck au programme. Réservation et achat des places en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle enfin que la nouvelle production de la Cenerentola de Rossini est à découvrir lors de 8 représentations du 29 mars au 7 avril à l'Opéra National du Capitole, où vous pouvez également assister au Midi du Capitole de Marie-Laure Garnier le 4 avril à 12h30. Billetterie en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Je remercie une fois de plus Serge Chosy et Robert Pénavert pour leur aide précieuse dans l'animation de cette émission. Merci aussi à Christophe Aubry, son réalisateur. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui nous écoutent fidèlement chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale à tous, bon week-end pascal, à bientôt.